France Culture.
Le journal, Héloïse Weiss.
Bonjour à toutes et à tous. La chaleur s'installe pour plusieurs jours en France avec des températures toujours plus élevées, plus 2 degrés par rapport aux vagues de chaleur précédentes dans le pays. Nous le verrons dès le début de ce journal. Nous serons à Budapest en Hongrie où la ville maintient sa marche des fiertés malgré une nouvelle loi qui l'interdit. En Iran, des funérailles nationales ont débuté pour une soixantaine de hauts gradés et de scientifiques tués par Israël. Et puis nous reviendrons également sur l'alliance d'Éric Ciotti avec le Rassemblement National. Un an après, quel est le bilan de ce rapprochement? Pour en parler, l'invité de la rédaction est Laurent Jacobelli, député RN. Les températures atteindront 34 à 38 degrés cet après-midi en France, avec même des pics à 40 degrés localement. Et ce n'est que le début d'un nouvel épisode caniculaire qui doit durer jusqu'à mercredi. Depuis une demi-heure, 14 départements du sud de la France sont placés en vigilance orange canicule. Mais demain, 53 au total seront en vigilance orange de l'Île-de-France au pourtour méditerranéen. Jeanne Serrin, bonjour.
Bonjour.
Cette vague de chaleur est bien plus chaude que d'autres dans le passé et toujours en cause. Les activités humaines.
Oui, c'est la conclusion d'une étude publiée lundi par le groupe scientifique Climameter dans laquelle les chercheurs comparent les conditions météorologiques du week-end dernier avec celles observées lors de précédentes vagues de chaleur. Il remonte ainsi jusqu'en 1950. Résultat, l'épisode actuel est plus chaud de 2,5 degrés en moyenne par rapport à ceux du passé. Et c'est bien le réchauffement climatique d'origine humaine le principal responsable, rappellent les experts. Le climatologue David Faranda, co-auteur de cette étude.
On a étudié les rôles, par exemple, de ce qu'on appelle l'oscillation atlantique multidécennale, l'oscillation pacifique multidécennale. Mais en fait, dans l'étude, on ne trouve aucun rôle de ces modes de variabilité qu'on appelle naturel du climat, pour expliquer ce qu'on voit sur cette vague de chaleur.
Derrière la vague de chaleur que nous vivons, il y a ce qu'on appelle un dôme de chaleur, un anticyclone qui stagne et bloque la pluie, le vent et la remontée d'air chaud. Et bien que ce phénomène ne soit pas nouveau, il est renforcé par la hausse des températures. À ce dôme, il faut enfin ajouter le réchauffement des mers. La Méditerranée est en ce moment 5 degrés plus chaude qu'à la normale. Cette chaleur se déverse sur les terres, empêchant ainsi le rafraîchissement nocturne. On s'attend la semaine à venir à plusieurs nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits où la température ne descend pas sous la barre des 20 degrés.
Et pour savoir comment faire face à cet épisode caniculaire, le ministère de la Santé réactive son numéro vert. C'est le 0800 06 66 66. Il est joignable de 8h à 19h. Dans moins d'une heure, des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Paris pour défendre les droits des personnes LGBT. La marche des fiertés partira de la station de métro Palais-Royal, musée du Louvre, avec une arrivée prévue dans l'Est parisien, à Nation. En Hongrie, ce sont 35 000 manifestants qui sont de leur côté attendus pour la Gay Pride. Et ce, malgré une loi votée par le parti du Premier ministre nationaliste Viktor Orban. Une loi qui interdit les rassemblements évoquant l'homosexualité ou l'identité transgenre. À Budapest, la correspondance de Florence Labruyère.
La Pride est interdite, mais le maire de Budapest a contourné l'obstacle. Il a changé le nom de l'événement. Ce n'est plus un rassemblement, mais un festival municipal qui échappe, selon lui, à la loi.
C'est un festival de la mairie. Il remplace la Pride. Dans l'esprit, ce sera comme si les gens étaient à la Pride. Mais légalement, c'est une fête municipale.
Près de 70 députés européens ont fait le voyage à Budapest pour marcher avec les Hongrois. Chloé Riedel est membre de l'Alliance socialiste et démocrate au Parlement européen.
Depuis de longues années déjà, Viktor Orban parle de lutte contre la propagande, ce qu'il appelle la propagande LGBT, ce qui est une reprise des termes qu'utilise Vladimir Poutine en la matière. Et là, un cap a été franchi.
Membre du groupe des Verts, Daniel Freund se veut lui aussi solidaire des Hongrois.
Tous les Européens sont libres de vivre comme ils veulent, de aimer comme ils veulent. Donc interdire la Pride, c'est illégal. Et c'est pour ça qu'on est là. On défend ensemble nos droits européens.
Selon plusieurs sources, la police ne devrait pas empêcher le défilé. Mais des mouvements d'extrême droite ont annoncé une contre-manifestation. J'espère que la police gérera la situation avec professionnalisme, comme elle le fait d'habitude, a souligné le maire.
La correspondance de Florence Labruyère à Budapest. En Iran, des funérailles nationales se tiennent aujourd'hui pour des hauts gradés et des scientifiques. Ils ont été tués lors de la guerre de 12 jours déclenchée par Israël. Anne Handlauer, vous êtes l'une de nos correspondantes dans la région. Les commémorations ont débuté à 8h, heure locale, dans le centre de la capitale iranienne, à Téhéran.
Des milliers de personnes sont rassemblées dans les rues du centre de Téhéran pour des funérailles nationales. Martyrs de la puissance, c'est le nom officiel de cette cérémonie. Des dignitaires du régime participent à l'événement, le président iranien Massoud Pezeshkian aussi, selon les télévisions iraniennes qui retransmettent la cérémonie. En fait, c'est un cortège d'une dizaine de kilomètres qui accompagne les cercueils d'une soixantaine de personnes sur le millier environ tué par Israël, selon un décompte d'ONG iranienne de défense des droits humains. Et parmi ces 60 personnes, des enfants, des journalistes, mais aussi une douzaine de scientifiques du programme nucléaire iranien et les trois plus hauts gradés du pays, dont le général Mohammad Bagheri. Il était le plus haut gradé, responsable à la fois de l'armée, du corps des gardiens de la révolution et du programme balistique du pays. Pour le régime de Téhéran, dont toute la communication vise à présenter comme une victoire la fin de ces 12 jours de guerre, ces funérailles nationales sont une démonstration de force. Elles ont lieu à l'endroit même où l'armée israélienne a effectué de très nombreuses frappes.
Au Yémen, les rebelles houthis alliés de l'Iran affirment avoir tiré un missile balistique en direction du territoire israélien aujourd'hui. En riposte au crime d'Israël à Gaza, justifient les houthis dans un communiqué. Tandis que le Qatar, pays médiateur entre Israël et le Hamas, évoque une fenêtre d'opportunité en vue d'une trêve à Gaza au lendemain d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. En France, à quelques semaines de connaître l'effort demandé aux Français dans le redressement des comptes publics, un rapport pointe du doigt les dépenses des collectivités locales. La Cour des comptes déplore leur forte contribution à la hausse du déficit public, et ce alors même que leur fonctionnement ne représente qu'une faible proportion du PIB. De quoi raviver la polémique de l'année dernière, quand Bercy les avait déjà désignés responsables du dérapage de la dépense publique. Les explications d'Annabelle Grelier.
Selon la Cour des comptes, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont, en 2024, davantage augmenté que les recettes. Et ce sont les dépenses des communes et intercommunalités qui ont le plus augmenté, près de 5%. Cela s'explique notamment par une revalorisation des rémunérations des fonctionnaires, une décision, rappelons-le, prise par l'État, et par une hausse des effectifs de contractuels et de fonctionnaires dans toutes les catégories de collectivités, liées notamment aux nouveaux besoins de policiers municipaux ou à l'ouverture de crèches. Moins bien lotis, les départements connaissent, eux, une situation de plus en plus défavorable. Comme en 2023, ils ont été pris en tenaille entre des dépenses sociales qui pèsent de plus en plus lourd sur leur budget, le nombre de bénéficiaires de l'aide aux personnes âgées, à l'enfance, au handicap et du RSA ne cesse d'augmenter, alors qu'ils subissent une nouvelle chute des recettes qu'ils perçoivent sur les transactions immobilières, les droits de mutation, qui représentent aujourd'hui leur seul levier fiscal. Du côté des régions, la situation financière continue à s'éroder alors que leur principale recette, la TVA, a été stable l'an dernier. Leur trésorerie est tombée à un faible niveau, leur endettement s'est accru et leur épargne nette a baissé. Mais le mouvement est porté par les besoins en matière de transition écologique et l'implication croissante des régions dans l'exploitation des réseaux de transport, comme le souligne la Cour. Même si l'institution de la rue Cambon évalue qu'un département sur trois est en grande fragilité, elle estime dans l'ensemble la situation des collectivités locales moins favorable, certes, qu'en 2024, mais toujours solide, qu'elles peuvent donc toutes contribuer à l'effort budgétaire de la nation, le tout étant de trouver une répartition juste et la bonne dose.
Le décryptage d'Annabelle Grelier pour France Culture. Un an après leur alliance, le Rassemblement National et l'Union des droites pour la République menée par Éric Ciotti tiennent aujourd'hui une convention de l'Union nationale à l'Assemblée nationale. Une convention pour évoquer notamment les thèmes qui rassemblent ces deux partis. À cette occasion, le député RN Laurent Jacobelli est l'invité de notre journal. Il est interrogé depuis l'Assemblée nationale par Antoine Marette.
Bonjour Laurent Jacobelli.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. On est aujourd'hui donc à l'Assemblée pour la convention nationale qui rassemble le RN et l'UDR d'Éric Ciotti. une journée pour parler programme, en particulier en matière économique. Est-ce que vous avez des points communs au niveau économique avec Éric Ciotti ?
Ah oui, beaucoup. D'abord parce que nous croyons dans le business. Nous voulons aider les Français à pouvoir travailler, monter leur entreprise s'ils le veulent. Et puis nous faisons le même constat. Trop de normes, trop d'impôts sont de véritables boulets accrochés aux pieds de nos industriels, de nos indépendants, de nos paysans et qui ralentissent notre économie. On le voit bien avec les chiffres de la croissance. On le voit bien avec la balance du commerce extérieur. Donc il est temps de réagir. Et ce sont des questions cruciales que nous allons aborder aujourd'hui.
Je vous pose la question parce que mardi, donc, il y aura cette motion de censure déposée par le Parti Socialiste sur les retraites. Si on a bien compris, vous avez fait le choix de ne pas la voter. Est-ce que ça veut dire que désormais, le RN est en voie de mélanisation ? Vous avez évolué sur la question des retraites parce que Marine Le Pen était opposée à la retraite à 64 ans ?
Alors, nous le sommes toujours. Nous voulons évidemment abroger la réforme Borne. Mais est-ce qu'une motion de censure abrogerait cette réforme ? Clairement non. Nous aurions un Béroubis qui viendrait remplacer François Bayrou, un autre macroniste du centre sans volonté de changer les choses, mais qui se plierait finalement à ce dogme qui veut que les Français ne travaillent pas assez, ce qui est une hérésie. Et donc, ça ne changerait pas les choses. Si nous avions la conviction, évidemment, que faire sauter le gouvernement Bayrou ramènerait une retraite plus raisonnable à 62 ans et 42 annuités pour ceux qui ont travaillé le plus tard, eh ben, nous le ferions. Mais ce n'est pas le cas. Donc, nous, on n'a pas le goût de l'action inutile. On attendra probablement le budget, parce que c'est là, par des chiffres qui, finalement, montrent une volonté politique, que nous pourrons d'abord négocier. Et puis, si cette négociation n'aboutit pas, faire sauter le gouvernement de manière utile. Le chaos pour le chaos, ça c'est pas nous, c'est la France insoumise.
Ça veut dire que la question des retraites n'est plus une ligne rouge, pour reprendre une expression du RN ?
C'en est une, mais croire qu'un gouvernement macroniste qui succéderait à M. Bayrou viendrait casser la réforme Borne, c'est, je crois, croire dans les contes de fées. Non, ça se passera pas comme ça. Pour revenir sur cette réforme, il faut soit une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une dissolution, soit que le président de la République prenne acte de la désaffection, du désamour des Français pour son action et qu'il s'en aille. Mais si aucune des deux solutions que je viens de citer n'est envisagée, c'est évidemment pas une motion de censure qui changera les choses.
L'opposition de Marine Le Pen à la retraite à 64 ans, c'était un désaccord avec Éric Ciotti, un des nombreux désaccords, lui qui vient de la droite libérale, conservatrice. Vous êtes en train d'évoluer sur cette question ou alors c'est simplement la conjoncture politique qui fait que vous n'allez pas voter cette censure ?
Non, c'est la conjoncture politique. Vous savez, le Rassemblement national et l'UDR sont d'accord sur l'essentiel. Hein. Il faut protéger l'identité de la France, il faut à nouveau assurer la sécurité de nos compatriotes, il faut relancer l'économie et l'emploi, notamment en desserrant les taux fiscaux et normatifs qui assaillent nos entreprises. Et puis, nous avons quelques points de désaccord ou de divergence. Vous savez, c'est une union, c'est pas une fusion-absorption. Éric Ciotti reste dans la tradition de la droite gaulliste. Nous sommes souverainistes et patriotes. Nous avons énormément de points communs, et l'essentiel d'ailleurs, pour sauver le pays. Et puis, il y a quelques réformes sur lesquelles nous pourrons discuter. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que nous trouverons un accord une fois que nous aurons à gouverner ensemble et que ce qui nous réunit est beaucoup plus fort que ce qui pourrait demain nous diviser.
C'est aujourd'hui la marche de fierté annuelle, une marche à laquelle souhaite participer un groupuscule identitaire, le collectif Eros. L'inter-LGBT s'y oppose. Le RN défend-il le collectif Eros qui, manifestement, fait de la provocation pour faire le buzz ?
Bon alors écoutez, je ne sais pas s'ils font beaucoup de provocations et beaucoup de buzz, mais moi jusqu'à récemment, je n'en avais pas entendu parler. Non mais attendez, nous on n'a pas à soutenir ou pas soutenir, chacun se réunit de la manière qu'il veut. Aujourd'hui c'est la marche des fiertés, ce qu'on appelait hier, je crois, la Gay Pride, c'est-à-dire pour défendre le droit de ceux, des homosexuels notamment en France, de manière festive en général. Pour moi ce n'est pas une manifestation politique. Moi je suis très surpris par l'exclusion de tout ce qui n'est pas à gauche de cette manifestation et par la LFisation de ce mouvement. Parce que quand on regarde bien LFI qui soutient l'Iran, qui soutient le Hamas, ce ne sont pas des régimes très tendres envers les homosexuels. Je pense que la Gay Pride de Téhéran, on va l'attendre encore très longtemps. Donc ce mélange des contraires entre l'islam radical et les homosexuels de LFI me paraît étrange. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Et je pense que l'affiche qui avait été proposée par la Marche des Fiertés, où on voyait un homme blanc de plus de 50 ans qui semblait pendu par des Palestiniens, des gens plus jeunes, des gens de gauche, ne me paraît pas conforme à l'esprit de cette manifestation qui est contre l'exclusion. Comment peut-on vouloir en finir avec l'exclusion d'une catégorie des Français en excluant une autre? Il y a une forme de paradoxe intrinsèque. Je crois qu'on peut être homosexuel et de droite, être homosexuel et de gauche, être homosexuel et musulman, être homosexuel et catholique, ou même ne pas avoir de religion. Ce qui faisait la force de ce mouvement, c'était l'unité. Ce qui en fera la faiblesse demain, c'est la gauchisation.
Merci à vous, Laurent Jacobelli.
Merci de votre invitation.
Et merci à Antoine Marette pour la conduite de cette interview. Je rappelle que 14 départements du sud de la France sont placés en vigilance orange canicule depuis midi. Cet après-midi, les températures maximales atteignent 34 à 38 degrés en Méditerranée, 40 degrés dans l'intérieur du Languedoc et du Roussillon. Au nord-ouest du pays, les températures maximales sont plus raisonnables, entre 20 et 25 degrés en bord de mer. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Antoine Boucher. Ludovic Auger était à la technique.